direct dans Radio Vélo. Bienvenue en ce mercredi 17 février. À mes côtés, Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue également, Mélanie.
Bonsoir.
On a aussi Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue. Et donc, le programme de cette émission avec nous dans quelques secondes. Mathieu Ladanius, le coureur de l'équipe FDJ. On parlera ensuite dans notre débat de la semaine de la sécurité des coureurs et à quel moment il faut dire stop. Vous avez réagi sur le forum de nos amis de véloclub.net. On aura ensuite avec nous Stéphane Pouliès de l'Armée de Terre. Et puis, on reviendra sur le début de saison amateur avec les Sorts Basques, les plages vendéennes, avant les chroniques régionales et la chronique matos. Mais avant cela, on commence avec notre premier invité de la soirée. C'est Mathieu Ladanius. Mathieu, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonsoir.
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 Merci d'être avec nous quelques minutes, Mathieu. Et bien, après ces premières courses de la saison, on imagine que vous avez fait le crochet par la maison. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes revenu de cette course à méditerranéenne ?
Depuis la méditerranéenne, je suis rentré à la maison donc le dimanche soir. Le lundi, j'ai fait deux petites heures de pignon fixe, tranquille. Hier, repos. Et aujourd'hui, j'ai refait une grosse sortie de 5 heures. Avant de repartir vendredi pour le tour du Haut-Var.
Julien ?
Oui, bonsoir Mathieu. Encore des pignons fixes encore ?
Oui, ça arrive, oui. Mais moi souvent, le lendemain des courses, ça m'arrive d'en faire. Ça permet de faire une petite sortie tranquille en tournant les jambes. Ça fait le coup de pédale rond. Donc c'est
oui, mais les jeunes aujourd'hui, ça ne pas ce que c'est que les pignons fixes, à part ceux qui font de la piste. Mais on le faisait à l'époque, maintenant, ils les font presque en plus. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup qui en font, mais moi, j'en ai tout le temps fait depuis que je suis pro, j'en ai tout le temps fait, donc je continue.
Justement, ouais, Mathieu, je vous écoute.
Oui, ça permet de garder le coup de pédale rond, moi qui faisais beaucoup de pistes avant, et j'en fais beaucoup moins, donc de faire un peu de pignon fixe, ça me permet de garder un bon coup de pédale.
En tout cas, l'entraînement a l'air de porter ses fruits, vu que vous êtes monté donc sur le podium final du Tourmed. Vous êtes d'ailleurs monté sur le podium dès la première journée avec cette victoire d'un contre-la-montre par équipe. Au départ,
c'est leur épreuve de prédilection, le contre-la-montre. On sait qu'ils les préparent fortement, hein, que ce soit côté matériel, côté entraînement, et ça paye.
Et ils ont rarement l'occasion de mettre la balle au fond. Du coup, c'est vrai qu'il y a énormément d'armada pour le contre-la-montre. Hein, tout au long de l'année, il y a des équipes vraiment spécialisé. Mathieu, c'est vrai que ça a mis du baume au cœur à tous les coureurs, à l'encadrement, hein, cette victoire de contre-la-montre.
Oui, c'est vrai que le contre-la-montre par équipe, il y a encore 3-4 ans, on le préparait quasiment pas. On avait des vélos qui n'étaient pas forcément les meilleurs du marché. On préparait pas spécialement ça. Maintenant, on s'est rendu compte quand même qu'un contre-la-montre par équipe, c'est hyper important sur le tour, dans les grandes courses. Il y a souvent et de plus en plus souvent de contre-la-montre par équipe. Et quand on a un leader comme Thibaut Pinot, il faut essayer de faire des contre-la-montre par équipe où on perd le moins de temps possible. Donc depuis 3-4 ans, on commence à bien travailler ça. L'équipe vient de nous sortir un tout nouveau vélo. Donc le vélo, à l'entraînement, on le travaille beaucoup. Et ça permet depuis de là 2 ans de faire des contre-la-montre de plus en plus proches des meilleures équipes. Et on est arrivé à gagner. C'est la première fois en 20 ans depuis la création de la Française des Jeux qu'il y a un contre-la-montre par équipe qui a été gagné. Donc c'est de bon augure pour la suite, sachant que c'était la première sortie du vélo, du tout nouveau vélo.
La première sortie du tout nouveau vélo. Mathieu, on vous reprend dans quelques instants. Là, on fait un petit lancement avec Julien. Tout de suite, Mathieu.
Le jeudi à 19h, en rediff le samedi 19h, ainsi qu'en podcast.
Et on est de retour dans Radio Vélo. On s'excuse pour le petit souci technique. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos petits messages. On vous fait un coucou, bien évidemment, sur le Twitter @radiovélo31. Et notre invité avec qui nous avions commencé cette interview, c'est Mathieu Ladanius, le coureur de la FDJ. Mathieu, est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Merci d'avoir pris le temps de patienter pendant ce petit interbède. On était en train de dire que oui, le tour méditerranéen, du moins la méditerranéenne, parce qu'il faut aussi faire, maintenant c'est la nouvelle appellation de la course, c'était bien passé pour l'équipe FDJ dès le premier jour, vu que du point de vue du contre-la-montre, ça a été un petit peu du baume au cœur pour toute l'équipe et tout l'encadrement qui travaille beaucoup sur ce sujet, hein, c'est ça Mathieu?
Oui, c'est vrai que le contrôle par équipe, c'est de plus en plus important. Maintenant qu'on a un gros leader comme Thibaut Pinot, capable de faire un podium sur le Tour de France et dans les grandes courses, l'équipe met tout en œuvre pour qu'on fasse des chronos par équipe les meilleurs possibles. Donc, on le travaille à l'entraînement et là, il y a ils ont élaboré un tout nouveau vélo, beaucoup plus performant. Et c'était la nouvelle venue du vélo sur ce contrôle par équipe. Et commencer par une victoire, c'est quand même important. Donc voilà, maintenant on sait que le vélo est performant, c'est à nous de faire le maximum maintenant pour être performant physiquement.
Alors justement, performant physiquement, vous l'avez été plutôt dans de bonnes conditions sur ce tour sur cette méditerranéenne. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'en parler avec vous. Quand vous avez pris le départ, vous pensiez déjà être dans une bonne condition et capable de faire de belles choses, Mathieu?
Je savais, en fait j'étais parti, j'ai fait ma première course à Majorque. Entre le stage de l'équipe et Majorque, on avait une semaine de récupération. Et j'ai été malade pendant cette semaine-là, donc je suis arrivé à Majorque pas très très en forme. Je sentais que j'avais pas récupéré du stage et je me remettais à peine de ma maladie. J'ai terminé Majorque de mieux en mieux, donc ça a été. Et la semaine entre Majorque et la méditerranéenne, j'ai fait de grosses sorties d'entraînement et j'ai senti que ça répondait super bien et donc je suis parti confiant sur cette méditerranéenne, en sachant que le premier objectif c'était le chrono par équipe. On savait qu'on avait une belle équipe pour ce chrono là, donc voilà, on a fait le nécessaire pour gagner et ensuite ça s'est enchaîné et c'est vrai que ça a été plutôt une réussite pour nous et pour moi.
Et oui, et ce seul un coureur d'Astana du coup est resté devant Mathieu et puis devant les autres Français. Grifco, il était fort. Comment il a réussi à s'imposer du coup sur l'étape la plus difficile?
Et c'est vrai qu'il était il était costaud parce que il fallait aller s'imposer ce jour-là. Moi d'abord, je pense que j'ai un peu sous-estimé mes forces dans le dernier col, dans le col du Tanneron, parce que je me suis retrouvé quand il y a des grimpeurs. Et quand Grifco a attaqué, je me suis dit, bon, mais de toute façon, il a attaqué dès le pied au plus raide de la pente. Et je me suis dit, moi, je connaissais pas exactement le Tanneron. En fait, je l'avais fait une fois l'entraînement, mais je me rappelle plus du tout. Je me disais, les grimpeurs, quand ils vont accélérer, ils vont aller le chercher. Parce que lui, non plus, il grimpe bien, mais c'est pas non plus un grand grimpeur. Donc, je me suis dit, ils vont aller le chercher. Et en fait, tout le monde en avait un coup dans l'aile. Donc, mais quand j'ai accéléré, je suis arrivé à partir tout seul, à reprendre quelques secondes à Grifco, mais c'était trop tard. Après, on a attaqué la descente jusqu'à l'arrivée. Et voilà, dans la descente, on a fait jeu égal. Donc voilà.
Guillaume, une question pour Mathieu.
Oui, Mathieu, est-ce que c'est pas compliqué à gérer une course comme la méditerranéenne où la première étape se déroule en Espagne et la dernière étape se déroule en Italie? Est-ce que au niveau des transferts, c'est pas un peu long finalement par rapport aux heures de selle que vous faites?
C'est vrai que c'était assez long les transferts. On a fait quasiment plus de transferts que de kilomètres à vélo. Donc on sait que c'est difficile pour les organisateurs d'arriver à trouver des communes qui acceptent de payer pour faire venir une course. Donc voilà, déjà c'est bien qu'il y ait une course. Après c'est vrai que ce serait mieux qu'il y ait moins de transferts, mais bon, ça c'est comme ça, voilà, on est quand même content de courir, c'était quand même une belle organisation, donc c'est vrai que les transferts étaient longs, mais bon, on fait avec.
Julien? Ouais, Mathieu, sur quoi on axe quand on a fini la saison? On se dit, bon voilà, la saison est passée, faut que je reprépare la saison prochaine, quand on voit qu'on arrive, comme tu arrives déjà en forme à la division, sur quels axes de progrès, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as changé de certaines choses par rapport à avant qui font qu'aujourd'hui, d'entrée, ça démarre fort, quoi?
Non, j'ai pas forcément changé. Après, ça dépend comment on finit la saison. Déjà, si on finit cramé, pas cramé, avant, après. Non, après, moi, c'est vrai qu'on a eu un bon hiver pour s'entraîner. J'en parlais à l'entraîneur, j'ai pas été le seul à avoir un bon hiver. Tout le monde a eu un bon hiver, tout le monde s'est bien entraîné. On voit que les coureurs arrivent bien en forme tout ce début de saison. Après, c'est vrai que moi, je suis axé sur les classiques. Donc, les classiques, ça arrive vite. Donc, il faut que ma forme soit bonne, même très bonne déjà d'entrée, quoi. Donc, voilà, moi, je me suis bien entraîné et ça a bien commencé. Donc, j'espère que ça va bien continuer.
Mais c'est ce qu'on souhaite.
Guillaume ? Oui, moi j'avais une petite dernière question côté matériel, même si je pense qu'il ne pourra pas nous en dire beaucoup. On t'a vu à Majorque avec un nouveau pédalier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est encore classé secret défense ?
Non, on ne peut rien dire.
Bon, voilà, c'est ce qui me semblait, mais j'aurais tenté le coup.
Voilà.
Mathieu, justement, c'est vrai que la Méditerranéenne, t'as bien réussi. Et c'est vrai, quand on regarde les courses qui t'ont plutôt réussi, il y a beaucoup de courses franco-françaises où tu as l'habitude de bien marcher. Alors, on se demande, au niveau du calendrier, cette année, est-ce qu'il y a des orientations particulières, des courses où on te retrouvera plus que d'autres ?
Là, je suis parti sur... comme chaque année, un début de saison axé au classique jusqu'à Paris-Roubaix. Donc là, je vais faire le tour du Var. Avant, en général, je commençais la saison au Qatar au Var. Et là, j'ai fait Majorque, Méditerranéenne et au Var. Et ensuite, je vais partir sur le Enjousblad maintenant et Kurn-Bruxelles-Kurn. Et ensuite, je ferai Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo et après tous les classiques jusqu'à Tour des Flandres à Paris-Roubaix. Voilà, avant une coupure. Mais c'est vrai que c'est, en général, à part les deux, trois premières courses, en général, c'est toujours le même programme jusqu'à Paris-Roubaix.
D'accord, c'est vrai que c'est
un beau programme, là.
Oui, c'est un beau programme. Et c'est vrai que c'est un bon programme pour se préparer et pour arriver en forme quand il faut. Donc, ouais, j'espère que ça va marcher.
Avec les courses, bien sûr, classiques, les classiques du printemps qui vous font, on imagine, marcher, qui vous font beaucoup d'envie, qui donnent le moral. Mais aussi, on vous retrouve régulièrement sur le Tour de France, déjà 5 participations dans ces 2 dernières années. Est-ce que c'est dans un coin de la tête ou il y aurait peut-être une découverte du Giro, par exemple, ou c'est plutôt envie de retourner sur le Tour ?
Non, après les classiques, je ferai une coupure. Alors peut-être je ferai comme l'année dernière, j'irai autour de Romandie pour épauler Thibaut Pinot. Mais soit je ferai la coupure avant le Tour de Romandie, soit je la ferai après si je fais le Tour de Romandie, une coupure d'une semaine. Et après dans l'optique de me préparer pour le Tour de France et d'arriver en forme. Après je sais que moi j'ai ma chance sur les classiques jusqu'à Paris-Roubaix. Et ensuite j'axe plutôt ma fin de saison autour de Thibaut et en tant que coéquipier à 100% autour de lui.
Bon, mais
donc c'est pour ça que je fais il est envisageable que je passe le Tour de Romandie pour commencer à travailler avec lui et après en préparation pour le Tour de France.
Bon, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Mathieu, merci d'avoir pris quelques minutes pour partager un petit peu tout ça avec Radio Vélo. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée en famille, on a entendu.
Que ça continue. Et que les objectifs qui arrivent, ils soient atteints parce qu'on sent que la poignée arrive, donc que ça perdure.
Mais j'espère. Merci
Mathieu. À bientôt dans Radio Vélo.
Bonne soirée.
Au revoir. C'était donc Mathieu Ladanius en direct dans Radio Vélo. Très, très sympathique, très disponible. Et puis, l'accent un peu comme nous, aussi, Mélanie.
Il est palois.
Palois, c'est quelqu'un du Sud, donc de chez nous, avec ce bel accent. Donc, il est vraiment en forme, quoi. Vraiment. Alors oui, comme il dit, c'est vrai qu'on a eu un très bon hiver, mais bon, c'est le cas pour tout le monde, quoi. Il a fait bon, on a pu rouler, faire des kilomètres. Il est déjà en forme. Moi, je pense que peut-être d'avoir fini la saison, peut-être sûrement moins cramé que les saisons précédentes, et la mieux récupérée pour mieux mettre en route et être performant pour ce début de saison. Donc, j'espère qu'il va gazer sur ces classiques où souvent il est vraiment en forme. Et voilà, quoi. Donc. Ils ont bien mis en route ce stage en Espagne, donc leur a été profitable. On espère que ça va continuer.
Bon, Guillaume, tu as essayé de le questionner. Je vais passer un coup de fil à notre ami Benjamin.
J'ai essayé de le questionner, mais je me doutais qu'il.
Oui.
Ils ont signé des clauses, donc bon, on n'en saura pas plus sur ce fameux pédalier Shimano avec 4 heures de puissance. Bon, je pense que d'ici un ou deux mois, on en saura plus, mais. pour l'instant, no comment.
No comment, et oui, Guillaume, il est toujours là. Les mecs, ils mettent un peu des pédaliers et tout, incognito en Espagne, et là, Guillaume, vous avez le pédalier, là.
Oui, c'est important.
Il laisse rien passer. Non, mais c'est bien, il faut être à l'affût. On en reparlera tout à l'heure d'Ata Chronique. Avant cela, on a notre petit débat, Julien. Oui, parce que ça, il y a du grain à moudre, comme on dit.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Et pour ce petit débat hebdomadaire, on retrouve notre ami Benjamin. Benjamin, est-ce que tu nous entends ?
Très bien, je vous entends bien.
Impeccable, bienvenue. Est-ce que tu as entendu Mathieu Ladagnou ? Ça a bien marché quand même.
Oui. Il y a eu juste une petite coupure à un moment avec des pubs, mais après...
Faut pas dire ce qui marche pas à l'antenne. Après, fermer le fonds de commerce, Benjamin.
Ça, c'est que comme il y a tellement d'écoutes, en fait, ils nous balancent des pubs quand ils voient que ça y a des pics d'audition. Voilà, on balance des pubs, c'est comme ça.
C'est RMC qui nous balance des pubs incognito, bref. Benjamin, donc, c'est vrai que petit débat hebdomadaire avec nos amis du forum Vélo Club du Net. Cette semaine, la sécurité des coureurs avec cette question. À quel moment dire stop ? C'est ça la question que tu as posée ?
Voilà, c'est savoir quand dire stop pour ne pas enlever du spectacle et en même temps pour préserver la santé des coureurs, que ce soit au niveau de la météo surtout, mais également au niveau du parcours, puisqu'on a des personnes qui suivent très peu le vélo avec deux fois l'Alpe d'Huez autour 2013. Bon. Donc je voulais avoir l'avis d'un peu tout le monde sur ce qu'ils pensaient de ces annulations de course, puisque c'est d'actualité avec la Classica Almeria qui a été fortement réduite et la première épreuve des Pages Vendéennes qui a été annulée.
Et justement, comment ont réagi les forumers du coup de Vélo Club du Net quand tu leur as posé cette question? Ils ont orienté sur certaines choses plus que d'autres?
Oui, mais c'est surtout sur la météo que ça a parlé, pas vraiment sur le parcours. Il y a eu des avis assez divergents, même si la plupart reconnaissent que, bien entendu, lorsque la santé du coureur est mise en danger, il faut stopper la course. Mais après, encore une fois, c'est savoir qui était d'anthologie aurait pu ne pas avoir eu lieu. Certains forumers pensent que ça aurait dû être annulé. Et d'autres disent non, mais ça nous aurait privé du...
Après, c'est vrai que le plus délicat, quoi, c'est les conditions météo. Un parcours difficile ou glissant, bon, des fois, c'est pas forcément là où c'est dangereux que va y avoir le plus d'accidents. Hein. C'est souvent les endroits qui sont pas accidentogènes où voilà, il va y avoir des chutes, etc. C'est vrai que le contexte météo est très important, surtout le vent, la pluie, quand il n'a pas plu depuis longtemps, que les routes sont grasses et que là, il vient à pleuvoir, à laver les routes et les routes sont très difficilement praticables maintenant. Le vélo se dispute sur les routes. Les routes aujourd'hui, c'est le plus, je pense que le plus dangereux, c'est la partie vent. Aujourd'hui, avec des roues qu'on a avec du profil très très haut, quand on prend du vent de côté, on a des vélos aussi qui ont de la portance par rapport au vent, et c'est ce qui peut, moi je pense, être vraiment très dangereux et avoir ce phénomène de coup de balai, quoi, quand on prend le vent de côté, où ça peut vraiment être dangereux. Après, le vent, comme on a pu le voir, des équipes s'en approprient, comme le Vendée U, ces fameuses bordures qu'on va faire justement pour avoir un aspect tactique et puis distancer ces équipes. Après, c'est vrai qu'il est rare quand même qu'on annule des courses par des conditions météo ou seulement là, voilà, il y avait des Après, je pense que c'est plus une histoire de cas d'accident avec des cas d'assurance, de responsabilité qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ou après, on va voilà, ça va devenir très compliqué parce qu'il y a de la casse, ça vaut des sous. Il peut y avoir de la casse humaine aussi. Et c'est là où on peut rentrer dans des protocoles, des choses assez difficiles à gérer derrière. Et c'est rare quand même qu'on annule des épreuves qui sont difficiles déjà à mettre en place. Déjà, donc c'est très très rare. Mais on voit souvent à Perpignan, il y a eu des conditions très difficiles avec du vent de côté, et les courses n'ont pas été annulées, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que Ganvevelgem, c'est un exemple qui a été cité. Moi, je pense que je l'aurais arrêté parce que c'était quand même. Alors, on a assisté finalement à une course, il n'y a pas eu de drame. Après, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un drame pour... on le voit, l'accident Brian Cocard, donc qui s'est cassé l'omoplate, c'est en croisant un semi-remorque, c'est une rafale de vent finalement qui l'a déporté. Ça aurait pu arriver sur Granvevelgem. un coureur aller risquer pour des conditions climatiques comme ça de se casser quelque chose, bon, même si c'est le cas presque tous les jours. Après voilà, c'est où est-ce qu'on met la limite. Effectivement, je crois que c'est le Tour méditerranéen qui avait allumé des étapes pour de la neige, etc. Bon là, ça se comprend aussi. Mais c'est vrai que où est-ce qu'on met de la limite. Ça, je pense, c'est le plus compliqué à gérer.
Benjamin, d'autres échos.
Ouais, je dirais que moi la limite c'est Ganvevelgem, quoi. C'est vraiment, après il faut pas dépasser. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du départ de la Classica Almeria. Les cyclistes pro entraînés sont au départ à 10 ou 15 km/h vent de face. Ils ne peuvent pas aller plus vite et il y en a qui descendent du vélo, ils doivent tenir leur vélo parce que le vélo part. Là, bon, c'était pas possible de faire une course, quoi. Dès le premier vent de côté, il y aurait la moitié du peloton par terre.
Mélanie, d'autres échos de ton côté sur ce débat, que ça t'inspire? La sécurité des coureurs, à quel moment faut dire stop? Brian Cocard, fallait lui dire stop quand? Non, des fois on peut pas tout maîtriser, bien sûr. On lui souhaite vraiment un prompt rétablissement à Brian, bien évidemment.
Guillaume parlait de neige et j'ai de suite repensé à Milan San Remo il y a 2-3 ans où franchement, enfin, c'était des conditions, mais moi je
dantesque.
Ouais, tu l'as dit. Non, mais c'est vrai que les coureurs, enfin moi sur la route, enfin, avec le temps qu'il faisait, moi j'aurais annulé, quoi. Enfin, ça m'a marqué, moi, en 2013, je crois que c'était Milan San Remo. Enfin, il y avait de la neige, les coureurs, ils étaient gelés.
On a bien pris le départ de Montassouk il y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous, ici à Montassouk, il y avait 3-4 degrés avec de la neige. Il y a encore des photos qui circulent, on voit vraiment des averses de neige assez importantes. C'était limite. Je sais que l'organisateur était là avec le service météo à voir jusqu'au dernier moment, voir si on prenait le départ ou pas quand même. Ça s'est fait vraiment sur le fil du rasoir. Voilà, après, moi ça fait 30 ans que je fais du vélo, j'ai rarement vu des courses s'annuler. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas connu des phénomènes météo qu'on a peut-être maintenant, qui sont plus importants qu'à l'époque peut-être.
C'est le plus impressionnant, ça reste le vent, parce que je me souviens, oui, de ces courses au soleil où on avait. Oui. Moi, c'est vrai que j'aurais pas pu être sur un vélo. Hein. Je trouvais ça incroyable que personne ne semblait s'opposer à la question s'il fallait faire du vélo ou pas. Tout le monde était sur le vélo, tout le monde partait. Et moi, je voyais les garçons, ils ne tenaient pas sur le vélo. Il y en a, ils s'envolaient, quoi.
Fait. Ouais, mais ça fait partie il y a certaines courses, certaines régions, certains pays où c'est comme ça, où il y a du vent de côté, où il y a du vent, enfin, que ce soit de côté ou de face ou de dos, etc. Et c'est comme ça. Maintenant, voilà, comme le disait, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait?
En plus, c'est pas évident pour les organisateurs. Organiser une course, c'est très difficile aujourd'hui, il y a de moins en moins.
C'est difficile, et quand tu vois que la météo aujourd'hui, quand tu vois la météo, on n'est pas capable de te donner la bonne météo le lendemain. Donc c'est compliqué de prendre une décision à la veille d'une course, quoi, sachant qu'il y a des coureurs qui viennent de très très loin. Quoi. C'est compliqué, quoi, de dire non, on prend pas le départ. Quoi. Ce qui se fait par contre pour la piste. Beaucoup d'épreuves sur piste donc qui se déroulaient à l'extérieur. Je parle pour ici, Bordeaux c'est pas le cas parce qu'elle est forcément à l'intérieur. Mais beaucoup d'épreuves sur piste ici en région Midi-Pyrénées, lorsqu'il pleut, elles sont annulées, quoi. Dès qu'il fait mauvais temps, c'est annulé parce que voilà, il y a un risque réel de danger. Dans ce cas-là, donc on peut annuler des épreuves qui sont annulées au dernier moment, quoi.
Oui, le championnat, la première partie du championnat Midi-Pyrénées de l'Omnium a été annulée en septembre dernier, ouais, parce qu'il pleuvait.
Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, également. Alors, c'est Bulomaniac qui dit sur le forum, la réponse finale devrait être donnée aux coureurs, ceux qui choisissent. Mais après, selon les coureurs, ça diffère. Il y en aura qui seront toujours prêts à faire
bien
la
sûr.
Guerre.
Mais bien sûr.
De Bernard Hinault qui gagne Liège-Bastogne-Liège sous la neige. D'ailleurs, un forumeur disait, est-ce que ça valait le coup avec les problèmes qu'il a eu au dos ensuite? Il y a des coureurs comme Panteyera, pour pas le nommer, qui dès qu'il y a un petit pépin, on arrête, c'est bon, faut pas prendre de risques.
Non, mais ça, c'est donner l'avantage à des gens qui n'aiment pas quand il y a du vent, que ça bordure, etc. Et en contrepartie, des gens qui sont forts dans des moments comme ça, c'est de les pénaliser. C'est comme si on dit un cyclocross, ben, le jour où il pleut, c'est de la boue, c'est technique, on arrête. Et, enfin, voilà, enfin, moi,
je suis d'accord, et puis, et puis après, t'as des équipes qui vont pas vouloir courir parce qu'ils savent pas maîtriser. Comme Patrick Lefebvre, c'est un autre rumeur, c'était Gramont qui disait l'étape qui a fait polémique au Giro sous la neige que Quintana gagne.
Le gars, il voulait tout faire pour annuler l'étape. Son leader, qui était maillot rose, donc Rigoberto Urán, il a dû lui mettre une tête comme ça, que ça allait pas être couru, que c'était une honte, tout ça. Il aurait dû plus le préparer à faire le guerrier et aller au combat, plutôt que de vouloir tout contrôler. Parce qu'il sait très bien, en plus, que si c'est annulé une fois, ils pourront refaire pression en disant, bon, mais ça a été annulé une fois, on va pas le refaire cette fois-ci. Donc, ça enlève encore une fois une partie de l'incertitude du vélo.
Bon, ben, on va te remercier, Benjamin, et puis tu reviens dans la boutique quand tu veux, hein, bien évidemment.
Bien entendu, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci Benjamin, à tout à l'heure.
Allez, ciao, bonne émission.
Ciao. Et on va se faire un petit raccrochage du côté des studios de Arnes, de CETA Radio que vous écoutez tout au long de la journée, au bureau, le son pop rock et bien évidemment toutes les autres émissions de nos amis. On fait un petit coucou à Laurent et on revient dans deux minutes avec notre invité suivant, notre ami Stéphane Pouliès. Ne bougez pas, Radio Vélo revient.
CETA Radio. Pop, rock, sport.
Tous les dimanches, dès 19h et le mardi, en rediff, retrouvez le top, le classement des 15 titres préférés des auditeurs. Votez toute la semaine sur cetaradio.fr pour faire évoluer le top.
Toujours dans Radio Vélo, un petit coucou à Gilles Gérardot qui nous écoute, qui nous dit que les dieux sont avec eux pour le jour de Montastruc. C'est vrai que...
Bah, il faut, là, j'espère que cette année, ça sera encore le cas, parce que ça y est, l'hiver est arrivé, enfin.
L'hiver, enfin, arrive. Gilles, prépare de quoi chauffer la route, le goudron, parce qu'on va en avoir bossé un peut-être, là.
Non, il a tout prévu, je pense. Le sel,
il a
tout prévu.
Le chasse-neige, il a tout.
Sinon, le mur de la galinade, ça peut pas se monter, je pense.
Le mur de la galinade, c'est compliqué à neiger, à mon avis. Ouais, je pense que.
Mais le mur de la galinade et le Grand Prix Montastruc, on le présentera la semaine prochaine, messieurs.
Il sera là.
Et d'ailleurs, ben, nous avons au téléphone quelqu'un qui a participé il n'y a pas si longtemps que ça au Grand Prix de Montastruc. C'est Stéphane Pouliès. Stéphane, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue en direct dans Radio Vélo. Merci de prendre quelques minutes eh bien, pour qu'on prenne un petit peu de tes nouvelles. On était en train de parler du Grand Prix de Montastruc. Ça te rappelle quelque chose, toi? Tu as participé il y a seulement quelques mois.
Oui, bien sûr. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Encore, ça me fait énormément plaisir. Et oui, pour Montastruc, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, bientôt un an, que j'ai pu y participer et faire deuxième. Ouais,
beau souvenir. Beau souvenir, et donc quel plaisir du coup de voir que depuis notre dernier appel à la fin de l'automne, eh bien, il s'est passé des bonnes choses avec la signature donc d'un contrat pour toi avec l'équipe Armée de Terre, et puis toute la préparation hivernale et la reprise des courses. Donc déjà en forme. Deux belles épreuves hein, pour toi le du côté de l'étoile de Bessèges, et puis la méditerranéenne. Qui s'est terminé ce week-end. Comment s'est passée la reprise du côté de ces deux premières épreuves pour toi, Stéphane? Tu es satisfait ou tu attendais mieux?
Non. Enfin, dans l'ensemble, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de recourir après une préparation. On trouve ça toujours long, mais bon, une préparation de 2-3 mois. Et c'est vrai que bon, là, je suis un peu comme les mêmes sensations que l'an dernier, mois de février, encourageant avec des bonnes sensations là sur la méditerranéenne. Et bon, c'est vrai qu'on attend toujours meilleurs résultats, mais je suis sûr que ça va venir avec l'esprit qu'on a de l'équipe et on verra pour les courses futures.
Je crois qu'au niveau de la Méditerranéenne, tu n'as pas pu terminer la dernière étape. Rien de grave, Stéphane ?
Non, rien de grave. C'est vrai que l'année dernière, j'avais mis un point d'honneur à terminer toutes mes courses. Et chez les professionnels, c'est un peu plus compliqué, surtout là que c'était un circuit de 5 km à faire 20 fois. Et c'est ça me convenait pas avec une bosse bonne d'un kilomètre deux et qui était assez dur pour moi et voilà rien de grave.
Justement, ben sur ce tour mètre, qu'il faut appeler maintenant la Méditerranéenne, tout à l'heure aussi, j'avais du mal à le dire. C'est vrai qu'on t'a vu plutôt dans le coup, je crois, sur la première étape de sprint. Hein, tu étais dans les 20 premiers. J'imagine que pour le moral, quand même, c'est bien d'être dans le coup hein, avec ben les meilleurs sprinteurs qui étaient présents sur cette course.
Ouais, après, bon, c'est dans le coup, ouais, c'est large. C'est vrai que. Bon, moi, je suis pas à me satisfaire d'une 15e place, mais après, j'ai vu que, bon, les gens me répondaient bien. Après, c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension au niveau des, pour frotter, tout ça, je suis un peu moins foufou que certains, et j'espère que bientôt, je pourrai ramener de plus belles places ou voir un succès pour l'armée de terre.
Julien.
Salut Steph, félicitations pour cette entame. Est-ce que voilà, d'être redescendu, tu disais que tu faisais du vélo avec une autre vision. Tu l'as amorcé pareil, de la même façon cette année?
Ouais, bien sûr. Enfin, j'ai fait exactement à peu près la même préparation que l'an dernier. Et là c'est des courses commencent forcément un peu plus tôt. Et c'est vrai que bon là sur les courses je prends du plaisir et même si les résultats n'est pas là, je vais essayer de ramener des belles places pour l'équipe. Ouais.
Mélanie, t'avais une question pour Stéphane?
Ouais, donc t'as rejoint l'armée de terre, équipe de Bruno Armirail et Benjamin Thomas, donc aussi Midi Pyrénées. Je voulais savoir comment ça s'est passé ce retour dans une équipe pro et ton intégration au sein de l'équipe.
Ouais, le retour se fait, c'est très bien fait. J'ai retrouvé énormément d'amis là sur les deux courses que j'ai pu faire. Et après au sein de l'équipe, ça se passe très bien avec les autres coureurs. Toujours un peu, ils sont dans l'attente de que je ramène un petit plus au niveau des parcours. J'essaye de prendre un peu mon rôle de comme à l'Occitane, de faire un peu le capitaine de course pour un peu les diriger. Et je prends énormément de plaisir de les conseiller et j'espère voir de grosses progressions sur tous ces coureurs.
Guillaume, tu avais une question pour Stéphane?
Non, pas spécialement, mais j'ai l'impression effectivement que ce qu'il recherchait, c'était vraiment ce qu'il avait retrouvé au niveau amateur, un peu vraiment le plaisir de courir. Et apparemment, tu l'as retrouvé avec l'armée de terre, c'est ça?
Ouais. Ben là, déjà pendant les stages qu'on a pu faire, j'ai retrouvé une très bonne ambiance. Mon premier stage, ça a été un peu, un stage armé en caserne. Là aussi, c'est assez strict, mais tout le monde est à l'écoute. C'est super sympa à vivre. Et puis après, les stages vraiment en route qu'on a pu faire. En Espagne et avec pareil avec du travail ludique en faisant des petites courses vraiment super sympa et c'est comme ça qu'on va progresser et surtout prendre du plaisir et pour le moment j'en prends énormément à m'entraîner et à aller courir.
Et justement, pour les courses, on a dit Étoile de Bessèges, la Méditerranéenne. Quel est le programme des prochaines semaines?
Là, justement, Tour de Provence qui est mardi, mercredi, jeudi prochain. Et après, bon, on n'a pas trop le programme.
Ça dépendra des réponses pour les invitations de certaines courses aussi, peut-être, Stéphane.
Il y a aussi ça, mais l'équipe attend de voir un peu la forme du moment de certaines. Et ce que je disais ce matin, là, je roulais avec Patrick Zev. Justement, je disais peut-être que je vais faire remonter à ce truc parce que j'ai pas de course. Et je sais pas, enfin, on verra par rapport à la famille.
Écoute Stéphane, je crois que l'organisateur est en train de nous écouter. Je pense qu'il va t'envoyer ce soir une fiche d'inscription. Il va être très content si tel est le cas. En tout cas, ça sera toujours un plaisir que de te voir comme l'an dernier sur le podium. C'est ce qu'on peut te souhaiter. Donc pour l'instant, les premiers mois à l'armée de terre se passent vraiment comme tu l'espérais, Stéphane.
Ouais, super. Vraiment, très très bonne ambiance. Personne râle, personne se plaint. Et ça donne envie de faire du vélo et je prends autant de plaisir que l'année dernière à m'entraîner, à partir en compétition et j'ai toujours contact avec l'Occitane là qui sont en stage et en course dans le Haut-Var.
D'accord.
Du coup cette saison je pense que je vais me faire plaisir.
Bon, mais c'est en tout cas le maître mot toujours pour Stéphane. Ouais,
une petite question, mais justement, en étant passé dans d'autres équipes professionnelles, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence entre ce que met en place l'armée de terre et là où tu étais auparavant?
Ouais, de grosses différences, ça se ressemble. Enfin, ils essayent de le faire ressentir le moins possible. C'est-à-dire que, bon, humainement, même s'ils sont moins nombreux, ils essayent de faire le maximum, mais avec énormément d'envie pour nous mettre dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que après les courses, ils nous font toute la collation est faite maison. Alors que peut-être dans les autres équipes, vu qu'ils ont le budget, c'est fait industriellement, c'est acheté, tout ça. Alors que là, c'est...
Ils mettent la main à la pâte.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est, en plus, ils sont un peu moins nombreux. Du coup, mais vraiment, ils essaient de tamponner cette différence. Et les autres coureurs, bon, on le ressentent pas parce qu'ils n'ont pas forcément fait d'équipes de plus haut niveau. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment satisfait. Et je vois toute l'envie donnée par les directeurs sportifs, des assistants qui font un énorme travail, les mécanos aussi qui nous chouchoutent les vélos parce que mais après hormis il n'y a pas de différence parce que bon les courses professionnelles c'est les mêmes et voilà après bon c'est avec l'envie que ils essayent de gommer tout ça ouais.
Bon, ben on va suivre tout ça de très près et puis on fait un petit coucou à tous ceux de l'armée de terre qui suivent Radio Vélo, notamment Vincent, c'est ça?
Vincent, avec qui j'étais en Sicile la semaine dernière. Vincent. Donc, je sais qu'il nous écoute très régulièrement. Donc, coucou Vincent, on t'appellera très très prochainement.
Il est resté en Sicile, non?
Non, en tout cas, il était dans l'avion retour. Donc, après, je sais pas. Ils ont peut-être gardé l'aéroport, je sais pas.
Il a pas passé le poste de douane.
Ouais, bon. C'est ça. Non, je crois qu'il était sur les courses. En plus, je dis ça, mais il était sur les courses Pays Basque là-bas.
Oui, descend bas, c'est ce qu'il me disait. Je crois qu'il est un peu du coin là-bas.
Allez. Bon, mais Stéphane, on te remercie d'être passé dans Radio Vélo beaucoup, et on se dit à très bientôt alors.
Oui, peut-être
dans pas longtemps.
Oui.
Merci Stéphane,
bonne soirée.
Ciao.
Au revoir. Et c'était donc Stéphane Pouliès en direct dans Radio Vélo. Toujours un plaisir de par sa disponibilité, comme Mathieu tout à l'heure. Les gens du Sud sont top, hein, Guillaume.
Gilles Girardeau qui doit être en train de refaire déjà les affiches.
Il se bat avec son imprimante pour le formulaire, là, puis il lui a rempli les papiers et tout. Là. Non, mais ça fait plaisir. Et puis c'est une reconnaissance aussi pour tous ceux qui travaillent pour le cyclisme, qui œuvrent plutôt pour le cyclisme dans la région, que ce soit cette équipe Occitane Cyclisme Formation que Stéphane continue de suivre, le Grand Prix de Montastruc pour lequel il a beaucoup de respect et aussi de plaisir pas loin de sa région tarnaise. Voilà, donc c'était Stéphane Pouliès d'un Radio Vélo. Et oui, la chronique régionale n'a pas commencé, mais finalement c'est un petit peu rapproché.
Ouais, c'est rapproché, oui.
Bon, on va appeler notre ami Max pour parler eh bien, des plages vendéennes et de l'essor basque. Avant cela, peut-être un petit écho du matériel avec Guillaume ou de la région avec Mélanie qui
coincée.
On va pas se battre.
Hein, Mélanie, t'en as pas trop sous le coude, je crois. Ça, donc hein, le Grand Prix Montastruc, qu'on le présente la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y avait comme info?
Ah, bah, du coup, c'est pour toi, Guillaume.
C'est plus moi le patron ici, c'est plus moi. Voilà.
Ça peut parler argent aussi du comité. D'ailleurs, il faut aller voir le patron.
Ils sont le chéquier. Alors, du côté du comité.
Eh bien, tout à l'heure.
Le comité régional Midi-Pyrénées.
Qui a fait pour neuf.
Qui ne s'appelle pas encore Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, ça en parlera plus tard. Mais Midi-Pyrénées.
Est-ce que ça va se faire
ça tweet beaucoup, ça Facebook aussi. C'est vrai qu'on peut suivre un petit peu les actualités partout. Et en plus, il y a un nouvel outil.
Oui, donc on a lancé aujourd'hui, enfin, on a mis en ligne le nouveau site internet du comité. Donc tout beau, tout neuf et plus fonctionnel, plus pratique, on va dire ça comme ça. Et donc, ben, concrètement, ça va nous aider aussi dans nos recherches de partenaires, choses comme ça, parce que c'est vrai qu'avec l'ancien site, on n'avait pas cette image professionnelle, on va dire, on n'était pas mis en avant par notre support. Et du coup, donc là, maintenant, avec ce nouvel outil, ça va nous permettre d'avancer et aussi de faciliter l'accès aux informations pour les licenciés, les clubs et même pour tout le monde, quoi.
Et ouais. qu'est-ce qu'ils font les licenciés avec un site comme un site de comité régional? On fait quoi? On regarde les dates, les horaires,
déjà,
on s'inscrit,
déjà,
qu'est-ce qu'on fait?
Quelque chose d'important, c'est le calendrier des épreuves. Ouais. Alors, épreuves cyclisme général, hein, toutes les épreuves, le calendrier qui est mis en place début de saison, déjà ça. Il y a la partie réglementation qui est aussi importante, hein. Il y a des règlements qui sont là. Il y a de la partie formation, il y a la partie information, voilà, que ce soit toute discipline.
Et les résultats.
La partie résultats aussi qui est importante aussi, les trophées qui sont mis en place. C'est les règlements des trophées, toutes les épreuves qui puissent exister. L'organigramme du comité là bien présent aussi. Voilà, donc on trouve tout ce qui, ben voilà, tout ce qui traite à la fonction du comité régional de cyclisme général. Ça soit du trial, VTT, piste, etc. Quoi. C'est pas que la route.
Deuxième info, Mélanie.
Oui, donc c'est la semaine dernière, on a voté entre guillemets l'organisation d'un événement par le comité Midi-Pyrénées. Donc ce sera en septembre, octobre prochain, on n'a pas fixé la date encore. Et du coup, en fait, ce sera un vide-grenier des clubs cyclistes. Donc c'est pour aider les clubs à vendre le matériel qu'ils ont en stock et dont ils ne se servent plus. Et pour permettre aux personnes de la région toulousaine d'acheter du matériel. Par exemple, un étudiant qui vient d'arriver sur Toulouse, qui a envie de faire du vélo, mais qui n'a pas forcément les moyens de mettre 3000 euros dans un vélo neuf. Mais là, ce sera l'occasion aussi de...
Ah, d'ailleurs, j'ai un vélo à vendre, d'ailleurs.
Donc voilà, et donc il y aura aussi des animations, choses comme ça. Donc c'est aussi une des missions du comité, c'est promouvoir le cyclisme. Donc voilà, petit événement en vue.
Très très bien, mais Mélanie, on reparle de tout ça la semaine prochaine, peut-être avec l'organisateur du Grand Prix de Montastruc, également très impliqué, bien évidemment.
Président de la commission communication.
Du comité régional, on en parlera. Bien évidemment, vous pourrez envoyer vos petites questions, d'ailleurs, via les réseaux sociaux, Facebook Radio Vélo, Twitter, Radio Vélo 31. Gilles vous répondra. Les sous, tu l'avais mis dans le petit jingle, mais voilà. On va plutôt être sur un côté festif, vu Guillaume, on pourrait lui mettre une musique de globe-trotter, d'aventurier. Quelles sont les nouvelles côté matériel, Guillaume?
Quelles sont les nouvelles
L'FDJ qui a mis un nouveau pédalier, non?
Il ne faut pas en parler, c'est eux qui ont coupé Internet tout à l'heure.
mais moi, j'aimerais bien en parler, mais j'ai aucune news. Donc, on attend les news officielles.
Tu étais il n'y a pas longtemps
En Sicile. Voilà. La semaine dernière, je suis parti en Sicile pour
la trace de Maradona.
Non, pas du tout. Pour la présentation presse
T'as rien perdu, c'est bon.
Non.
D'accord.
Non, cette fois-ci, c'est un cycliste de l'armée de terre qui a perdu sa valise. Enfin, elle est arrivée le jour où il repartait. Donc, c'était bien, au moins, il n'a pas eu à la déballer. Donc, c'était la présentation presse Hutchinson, le nouveau pneu Fusion 5. Donc, avec 4 coureurs de l'armée de terre et 5 coureurs de Direct Energy. Donc ils sont équipés par Hutchinson. Donc voilà, on nous a présenté les nouveaux pneus. J'ai fait la présentation sur mon site. Donc si vous voulez tous les détails techniques, j'ai pas tout en tête, vous les retrouverez sur mon site matosvelo.fr. Et donc on a pu rouler 65 km avec les coureurs professionnels. Donc ça, c'est très bonne expérience. Donc dans les bosses, ça va, ils nous ont entendu. Donc ça s'est plutôt bien passé. Même si en nous attendant, eux arrivaient à discuter, moi j'arrivais plus à discuter.
Donc ils vous fournissaient des vélos avec les pneus en question.
Voilà, avec les pneus en question pour pouvoir les tester. Donc après, c'est toujours difficile sur seulement 65 km, des routes qu'on ne connaît pas du tout, d'avoir un ressenti, surtout que les routes siciliennes sont catastrophiques. Non, sincèrement, c'est.
Mais si les pneus ont tenu, c'est bon signe.
Les pneus ont tenu, mais on a l'impression que c'est Paris-Roubaix. Pourtant, c'est du bitume, mais c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches qu'ils ont là-bas. Et alors, pour ceux qui se plaignent en France, bah, moi le premier des automobilistes, n'allez pas en Sicile. Parce que on a l'impression qu'ils veulent tous nous tuer là-bas. C'est assez dramatique. Non, mais à part ça, sinon, expérience très sympa. Et je remercie d'ailleurs deux coureurs de Direct Energy dont j'ai perdu le nom. Je crois qu'il y avait Julien Maurice et Jean Desbos.
Fabrice Jean Desbos. Et puis tu m'as dit tout à l'heure Angelo Tuic aussi.
Ouais, qui était là, mais lui il était parti déjà un peu.
Brian Coquart aussi qui était.
Brian Coquart qui était là. Et même pour un sprinter, il grimpe très très bien. Julien Maurice et Jean Desbos qui nous ont ramenés pour qu'on rentre pas avec la nuit à l'hôtel. Il y avait un gros vent de face. Bon, il a fallu que je m'accroche. J'ai mis tout ce que j'ai pu, mais on a réussi à rentrer juste avant la nuit. Donc voilà, expérience bien sympa, mais la Sicile, moyen pour rouler. Quoi. Bon. C'est assez dangereux.
Sur les terres de Vincenzo Nibali, quand même, qui est de Messine.
Qui est de Messine, mais qu'apparemment, il est parti très vite de là-bas, justement, à cause.
Ouais,
il vit en Toscane maintenant, parce qu'apparemment, il n'arrivait pas à rouler. Il trouvait ça trop dangereux lui aussi. Donc,
En fait, on l'appelle le requin de Messine parce qu'il s'est vite faufilé et est parti.
Ouais, je pense que. Mais bon, c'est à faire. Voilà, c'était très sympa. Après, autre information, si le site e-commerce Wiggle, qui est assez connu, qui a racheté l'autre site e-commerce qui était leader mondial pendant quelques années, Chain Reaction. Donc, ça va faire plus, alors je sais pas.
Est-ce qu'ils vendaient du matériel de cyclisme?
Ouais, tous, ils vendaient du matériel de cyclisme.
Il y a beaucoup de sites qui sont en perte de vitesse.
Ouais, puisque Chain Reaction qui était leader mondial il y a quelques années, là il était en perte de vitesse. Donc là, ça, on ne sait pas encore si ça va être deux entités encore ou si ça sera plus qu'un seul site. Mais voilà, ça va créer un monstre qui va générer plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je pense qu'en France, on se dirige vers la même chose avec. On a plusieurs sites style Alteryx, ProBike Shop. Je pense qu'à un moment, il va y avoir
des fusions,
des rachats, des fusions. Donc voilà, c'est quand même un peu en perte de vitesse tout ça. Et dernière information. N'utilisez plus le terme Guidoline.
C'est l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, Guidoline aussi.
Guidoline, moi je pensais que c'était un terme générique depuis des années qui était utilisé par tout le monde. Enfin, c'est le cas, dans le milieu du cyclisme, tout le monde appelle ça une Guidoline. Et j'ai reçu un courrier d'un avocat de la marque Velox qui m'a indiqué de supprimer le terme Guidoline de mon site, parce qu'en fait, ce n'est utilisable que pour les produits. Pour les rubans de cintre de la marque Velox.
Une marque déposée.
C'est une marque déposée depuis 1950, je crois, ou 50, enfin, dans ces eaux-là.
Du coup, on dit ruban de cintre.
C'est ruban de cintre.
Faut dire ruban de cintre. Donc, c'est première nouvelle. Il y a beaucoup de. J'en ai parlé d'ailleurs même avec des journalistes en Sicile et tout. Tout le monde était étonné parce que. Tout le monde, Guidoline, c'était comme un Frigidaire ou
comme Karcher.
Caddie, voilà, c'était rentré dans les mœurs. Et ben non, donc voilà, il a fallu que je modifie tout le site et tout vite fait. Donc voilà, faites attention. Bon, quand vous parlez, je pense que ça risque pas grand-chose, mais en tout cas, si vous devez écrire un article, faut utiliser ruban de cintre.
Bon, voilà. Et bien, on verra si on reparle des rubans de cintre dans une prochaine émission.
Ouais, on utilise le terme Guidoline, on risque de se faire taper sur les doigts. Mm-hmm. Donc voilà, c'était tout pour les nouveautés.
Comme quoi, la réforme de l'orthographe, c'est pas qu'avec les oignons et
les histoires. Les capteurs de puissance, moi je suis très.
Oui.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de plus que.
Là, j'ai reçu un Pioneer à tester. Donc les derniers que j'ai testés où j'ai vraiment les résultats, c'est donc les pédales PowerTap qui sont très très bien. D'accord. Qui sont au niveau du SRM.
Et j'ai vu que CRM faisait sacré.
Ouais, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Ben voilà, tu me lances le sujet. SRM qui baisse ses tarifs d'environ 30 et 35%.
Ouais, ce que j'ai vu annoncer, ouais.
Donc.
C'est énorme. Pour un leader comme SRM, c'est énorme.
Donc, deux explications à cela. Soit vraiment. Pour moi, j'en ai qu'une seule. C'est ils ont peur de la concurrence, surtout Shimano qui arrive prochainement. Donc voilà, Mathieu de la Danius n'a pas pu nous en parler. Non. Mais Mathieu, Shimano qui arrive dans le domaine des capteurs de puissance, je pense que SRM a très peur.
Pour garder le monopole du groupe en lui-même sur un vélo. Oui.
Voilà, parce que je pense que des équipes comme Sky, etc., comme ils sont équipés Shimano, ils vont passer sur les 14 puissances Shimano, FDJ, ça va être le cas, je pense. Donc, je pense qu'SRM.
Ils se fait du mouron un petit peu.
Ouais, je pense qu'ils ont vécu leurs heures de gloire et que là, ça entraîne, même si ça reste du très bon matériel, mais je pense qu'ils ont bien fait de baisser les tarifs.
Merci Guillaume, on te retrouve bien évidemment comme chaque semaine dans Radio Vélo et sur ton site matosvelo.fr. Max est-il avec nous au téléphone?
As-tu quitté ton masque?
Est-ce que tu nous entends?
Oui, bonjour.
L'homme masqué.
Bienvenue en direct. Décidément, maintenant, c'est des émissions à la demande. On appelle Benjamin, on appelle Max. Les mecs ne se déplacent même plus. Non, Max, bien évidemment, on t'en veut pas. La reprise du cyclisme amateur, ouais, c'était ce week-end, avec, eh bien, les boucles de l'Essor d'un côté, les plages vendéennes de l'autre. Les plages vendéennes, eh bien, toutes les épreuves n'ont pas pu se dérouler. Il y a eu un petit peu de retard à l'allumage à cause de la météo, mais c'était aussi le baptême en plus du Team Payname, donc ça fait un petit peu une pierre deux coups pour te téléphoner, Max. Les plages vendéennes, avec le recul, comment ça s'est passé?
Ben, avec le recul, pour faire court, on a envie d'y revenir. Voilà, bon. Les derniers coureurs, ils avaient peur, et j'avais peur aussi qu'ils manquent de lucidité, des choses comme ça, et puis en fait, dès le premier soir, ils m'ont dit non, mais l'an prochain, on y revient. Donc, ça fait plaisir de voir que ils ont rien fait extraordinaire. On a fait ce qu'on a pu. C'est sûr que se comparer aux meilleures équipes de France, c'est pas facile à manœuvrer, mais de voir qu'ils ont déjà envie de revenir, entre guillemets, dire au charbon, c'est que c'est quand même des courses qui sont intéressantes où je pense que j'ai bien fait d'amener là-bas parce que ils sont ravis. Hein. Donc, ça n'empêche pas que nos courses aussi, comme les Sorts Basques, sont très intéressantes quand on voit les coureurs qui gagnent. Mmh. Mais voilà, c'était un très bon choix. Et puis, malgré l'épreuve annulée samedi à cause de la tempête, chose qui n'aurait pas été annulée, je pense, 10 ans en arrière.
D'accord.
Maintenant, il y a un règlement qui est en phase. Donc, il faut le mettre à l'œuvre. Mais sinon, ça s'est très bien déroulé. Bon, le Vendée-U a encore écrasé, j'ai envie de dire. Après voilà, c'était surtout des courses à bordure le premier week-end et hier aussi. Maintenant, je pense que jeudi, il y aura un peu moins de vent, et puis après ils annoncent des courses un peu le dimanche en tournée. C'est une course qui est réputée difficile, donc le vent fera pas grand chose, mais bon voilà, la Vendée U a été dominateur.
Ouais, c'est une déculottée qu'ils ont mis. Moi j'ai fait des Bordeaux Saintes avec autant de vent que peut-être qu'il y avait là, avec 190 coureurs. On savait très bien que quand on rentrait dans le marais, il allait avoir du vent. Et il y avait toujours cette équipe de... avant qu'il y ait Vendée-U, c'était pas la même équipe, mais de notre nom, qui a tamé à faire une métier derrière, avait 5, 6, 7, 8, 9 bordures, on restait intercalé à 50 mètres, après ça se revenait. Là, j'arrive pas à comprendre.
Il y a peut-être une différence. Max, tu as senti une grosse différence de niveau entre les Vendée-U et les autres? Non?
Non, c'est pas une différence de niveau, c'est déjà, le vent n'était pas assez fort, parce qu'il y a eu du vent pour faire des bordures, mais il y aurait eu beaucoup de vent. Comme j'ai pu faire il y a 2 ans en arrière, ils n'auraient pas été 10 devant. Parce que quand il y a beaucoup de vent, c'est plus difficile à manœuvrer. Quand il n'y en a pas beaucoup, il faut manœuvrer au millimètre. Et ça, ils adorent. C'est-à-dire que là, le peu de vent qu'il y avait, il fallait vraiment le faire au bon endroit, au bon moment. Et derrière, que le portier ferme bien la porte.
Non, mais d'accord.
C'est pour ça qu'ils ont pu faire une belle bordure comme ça. Et puis après, derrière, par contre, ils étaient quand même 20. Il y avait quand même une dizaine de coureurs qui étaient hors Vendée-U de chaque club. Et eux auraient pu s'entendre, on va dire, pour essayer de les contrer. Sauf qu'à un moment donné, une équipe, quand elle est en surnombre, les autres derrière n'arrivent pas à s'entendre. Donc c'est pour ça que derrière, ça répète, et qu'après, ils terminent à 10.
Ah, facile.
Et ça, c'est un peu dommage, parce que moi, de ce que j'ai pu voir, je pense que des Nantes, des Sous-Jacen, des équipes comme ça qu'il y avait là-haut, ils auraient pu rivaliser, sauf que en fait, le problème, c'est qu'eux, ils ne vont jamais être 10 ou 11 au même endroit au même moment. Que le Vendée-U, leur force, c'est qu'ils arrivent à la lancer quand ils sont plus de 10.
Ouais, pourquoi
ils vont jamais lancer une bordure.
Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est des équipes qui vont le travailler, ça, la bordure. On sait très bien que les Vendée-U sont très forts de la bordure. Et putain, mais on peut pas apprendre ça aujourd'hui, on a nos gamins, nous, à prendre des relais, à prendre des bordures, à faire ce que c'est qu'une bordure, on peut pas. Nos coureurs, après, s'en vont à l'extérieur, voilà, comme là, ils sont perdus. C'est un peu dommage, quoi.
C'est ça que moi, j'ai essayé d'expliquer aux miens, de leur dire, il faut qu'on soit groupé un maximum, tout le temps groupé, et puis plus on sera groupé, mieux on y arrivera. Mais en fait, je pense que les autres équipes, en fait, ne se focalisent pas là-dessus sur la bordure.
Mandu, ils sont chez eux, ils savent que là-dessus, ils sont irréprochables. Donc, ils le travaillent entraînement pendant l'hiver. Les autres, je pense, comme sur la semaine qu'on a pu croiser en stage en Espagne, vont plutôt travailler ben, les montées, peut-être les arrivées au sprint, des choses comme ça.
Et après, ouais, coup, ben, ouais, c'est... Au-delà de l'aspect bordure, ça donne quand même un sacré niveau de cohésion dans l'équipe parce que faut être 10 à être toujours ensemble, comme tu le disais. Justement, toi, tu as fait travailler ton équipe pour qu'ils soient tous ensemble. Eux, ils sont très forts, quoi. Et pourquoi les autres équipes, ils n'arrivent pas à avoir cette homogénéité entre coureurs, hein?
Encore hier, quand la bordure s'est faite, moi, pour une fois, là, j'ai réussi à me placer. Du coup, j'étais en 30e position, entre 30 et 20e. La bordure, on sait que ben, c'est les 10 premiers, les 10 devant du. Derrière, il faut être entre 10 et 20 si on veut rester dedans. Et le problème, c'est qu'entre 10 et 20, c'était pas 10 Nantais. C'était 10 coureurs de chaque équipe différente. Donc après, ben, ça pète au gars qui, tu connais ça, qui va s'écarter.
Ouais, ouais, bien sûr.
Moi, ces gars étaient deux passes devant moi, et puis après, c'est fini, parce que derrière, ben, ils ont beau s'organiser. T'as beau être 10 contre 10 en contre la montre, et derrière, ça s'organise pas. Parce qu'il y a toujours un ou deux qui est dans la bonne bordure, un ou deux qui est derrière, qui l'a raté, donc du coup, ils sont plus que 5 ou 6, ils sont pas assez.
Tu as raison, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent bien une différence d'homogénéité entre une équipe et une autre, alors que les autres équipes ont quand même le même niveau physique. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors aujourd'hui, on fait des stages de cohésion parce que les coureurs, il faut qu'ils se connaissent mieux, qu'ils s'entendent mieux, et au final, on voit qu'au final, ça, c'est pas que ça marche pas, mais il n'y a pas ce qu'on attend un petit peu au bout, et que finalement, ça se... Bon, toi, par le métier, tu savais que voilà, il fallait se mettre là, etc. Et mais c'est quand on est une équipe qu'on veut rouler soudé, c'est là où je dis, merde, les autres, qu'est-ce qu'ils font, quoi?
C'est exactement ce que je disais au débriefing à mes coureurs. Hein. Je leur disais, voilà, moi je ne comprends pas pourquoi des Nantes ou des choses comme ça n'ont pas réussi voilà, à montrer ça. Donc bon, après, c'est eux qui gèrent ça, qui gèrent leur équipe. Mais c'est sûr que c'est une bonne explication, parce que quand je vois hier, il y a encore eu la bordure qu'ils ont faite, sauf qu'à l'arrivée, ils ne font pas jusqu'à 10. Hier, il y a quand même Benjamin Thomas qui s'est incrusté, ou d'autres coureurs aussi.
Il fait deuxième.
Oui, il fait deuxième, mais surtout qu'il a fait la course sur la fin. Il leur a mis des sacoches de tous les côtés. Ils étaient 5 contre lui. Il a bagarré. Enfin, il a montré que voilà, en fait, Vendée-U n'était pas largement au-dessus. Il était au-dessus par le collectif. À 5, ils ont réussi à l'avoir, mais ils auraient été que 2. Je pense que Benjamin Thomas, ils auraient eu. Hein. Donc, c'est leur force, c'est le collectif. Et c'est pour ça qu'il y a un bouffreau qu'on connaît bien ici chez nous, qui est là-bas, qui est dans la bonne bordure. Pourtant, à l'époque, c'était plutôt un grimpeur que quelqu'un qui va rouler sur le plat. Mais parce que quand t'es dans le collectif, n'importe qui dans la bonne bordure, ça ira loin. C'est ça la différence de la bordure et d'école, c'est qu'une bordure, on peut faire péter qui on veut, en fait. Mais ici, il faut un gros collectif.
Oui, mais si l'équipe s'entend très très bien, comme tu dis, il faut que voilà, chacun voilà. A sa place, le portier a sa place, exactement.
Et grande cohésion donc chez Vendée-U sur ces terres du côté des plages vendéennes. On est pris par le temps, un petit clin d'œil quand même aux boucles de l'Essor Basque, avec déjà 3 épreuves si je ne m'abuse, la première remportée par Cyril Patou de l'Oudéac, la seconde par Johan Payot de l'Océane top 16, avec Johan Verardo de Blagnac qui fait 3e. Sur la première manche, il y avait Alexis Guérin qui fait 6, et la 3e, le tour de la Basse Navarre, remporté par Élie Gesbert de l'Oudéac. Élie Gesbert,
ouais, qu'on retrouvera. On a annoncé que le club de l'Oudéac allait marcher très très fort.
Qu'on retrouvera chez FDJ bientôt. Voilà, avec également Johan Verardo sur le podium, Campistrou 7e. Oui, Max?
Je pense que c'est un très bon exemple. L'Oudéac, quand même, qui est une équipe de Bretagne, qui aurait pu venir sur les plages, quand ils ont une équipe aussi pour faire des belles bordures.
Ouais.
Et ils sont allés se préparer sur les sorts. Voilà, c'est peut-être une question à leur poser. Pourquoi aller plus sur les sorts que sur les plages? Et en plus, ils ont quand même, je vais pas dire écrasé, mais ils ont quand même montré qu'ils étaient costauds sur les sorts. Voilà, c'est des équipes, ça, je pense qu'ils peuvent aller partout. On aurait mieux vendu sur les sorts, je pense que ça aurait été aussi intéressant. Mais voilà, chaque équipe travaille un peu ce qu'ils ont envie de travailler, donc c'est
oui.
Intéressant.
Oui, après, les parcours sont quand même différents entre... entre les sorts et les plages, c'est quand même pas non plus quand même le climat non plus, et on sait que le climat est quand même plus rude hein, sur les sorts. On a vu les conditions météo difficiles qu'il y avait moins quand même sur les plages vendéennes, c'est vrai.
Bon, eh bien on va plier bagage. Max, on va te remercier. Tu voulais rajouter quelque chose, un clin d'œil, un coup de cœur, un coup de boule, un petit sentiment en plus?
Oh, pas encore, là, j'ai vraiment beaucoup à m'occuper, donc là j'ai plus trop le temps de regarder un peu droite à gauche, mais ce week-end on sera sur les sorts, donc maintenant on ira faire un tour sur les sorts, voir un peu prendre la température là-bas.
Bon, eh bien on reparle de tout ça mercredi prochain. On te remercie Max d'être passé dans Radio Vélo, on te dit à très bientôt.
Et merci, bonne fin de soirée à tous.
Bonne fin de soirée, salut. Ah ouais.
Et l'émission touche à sa fin après pléiade de coups de téléphone, émission sponsorisée par France Télécom. après notre ami Mathieu Ladagne, Stéphane Pouliès, Benjamin et Max, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission de Radio Vélo. On se retrouve mercredi prochain pour la présentation du Grand Prix de Montastruc. On parlera également de l'Essor Basque. On aura le vainqueur de l'Essor Basque, un gars de l'Oudéac. Tiens, on posera quelques questions aussi, comment ça fonctionne là-bas.
Pourquoi ils sont là-bas et
pourquoi
pas...
Ben oui. Eh oui, on posera toutes ces questions. Revenez là, même heure, même lieu, 19h-20h, le podcast dès demain matin. Ciao et bon vélo à tous.
Ciao, bonne semaine.
Et pourquoi pas faire le tour de la terre ? Il est quelle heure au Guatemala ? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas, car la roue tourne.